Bonjour Michaela.
Bonjour Claude.
Comment ça va?
Bah, ça peut aller pour un 1er janvier.
Oui,
2021.
Nous sommes le 1er janvier 2021 et nous sommes à Auray. Alors aujourd'hui, c'est ton interview, Michaela.
Ah bon?
Oui, c'est la première que je fais. Alors, je vais te demander d'être indulgente et puis de bien participer, mais ça, je peux compter sur toi. Pas de soucis. Alors, Michaela, j'ai fait ta connaissance le dernier samedi d'octobre 2002.
C'était pas 2003?
Non, c'était 2002.
Oui. Bon, bah, ça fait un bail.
Oui, ça fait un bail. Ça fait 18 ans.
Et puis...
Nous nous sommes rencontrés sur Internet.
Oui, tout à fait.
Nous sommes un couple moderne.
Sur Meeting.
Je sais plus.
Si,
je sais
il me plus. Semble que c'était voilà. Meeting.
Depuis cette date, depuis 18 ans, nous ne nous sommes jamais quittés.
Eh oui.
Voilà. Voilà déjà quelque temps que je raconte sur un podcast la petite histoire de ma vie. Et c'est l'heure pour toi, Michaela, de me rejoindre. Tu es mon premier interview.
De l'année ou de tout?
De tout. Je n'ai jamais interviewé qui que ce soit. Eh bien, merci. Ensemble, nous allons rester sur la toile et sur le podcast que je suis en train de préparer de toute l'histoire de ma vie et de ma vie avec toi maintenant. Alors, je vais te laisser te raconter très librement.
Ah, que veux-tu que je te raconte?
Qui es-tu, mon amour? Lors de notre première rencontre, tu m'as dit être une citoyenne du monde.
Tout à fait.
Mais encore, qui étaient tes parents, tes grands-parents? Quand et où es-tu née? À toi.
Alors, je suis née à Munich, un 1er mai 1947. Et ma vie n'a pas très bien commencé, parce que les premiers 6 mois, je suis restée à l'hôpital. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne voulaient pas de moi. Et quand enfin ma mère m'a récupérée... L'infirmière a dit « tant mieux, parce qu'elle n'arrête pas de brailler jour et nuit ». Bon, ça n'a pas beaucoup changé, je crois. Mais voilà, donc j'ai vécu avec mes parents, mon père. Mon père, à l'époque, en 1945, il avait fini la guerre. Et en 1947, je ne sais plus très bien ce qu'il faisait. Mais... Quelques années
vous
après,
habitiez Munich,
nous habitions Munich, à la Delpstrasse 11, numéro 11, dans la maison de mes grands-parents maternels.
Que je connais, non pas tes grands-parents, mais la maison,
oui.
Et dans laquelle on a passé plein de bons temps. Mais ça sera un autre podcast.
Voilà, alors c'était une grande maison qu'ils avaient achetée en 1924. C'est ma grand-mère qui l'avait choisie. Je fais une petite parenthèse parce que ma grand-mère, à cette époque, avait dit à son mari, mon grand-père, « Voilà, il nous faut une maison parce que les enfants ont besoin d'un jardin. » Alors, mon grand-père, il s'est mis à la recherche de maison. Et puis, il lui a dit, « Voilà, j'ai 2 maisons à te proposer. L'une qui est très belle et l'autre qui est beaucoup moins belle, mais elle a un jardin, un grand jardin. » Donc, ils sont allés voir les 2 maisons, et la 2e maison dans la Delpstrasse 11. Ma grand-mère a dit, « Voilà, je veux celle-là, parce qu'effectivement, le jardin est plus grand. Et en plus, la parcelle à côté, elle est encore libre, donc tu vas acheter l'autre parcelle aussi. » Mon grand-père a toujours été obéissant, donc il a acheté la maison et la parcelle à côté. Et effectivement, nous avions un très grand jardin.
Donc, tu habitais là combien de temps?
Jusqu'à mes 4 années et demie à peu près, lorsque nous sommes partis aux États-Unis.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans?
Ah, j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens de la terrasse où on mangeait en été, midi et soir. Et puis aussi sur cette terrasse qui était au fond de la maison, côté jardin, avec un grand marronnier qui nous faisait de l'ombre en été. Et puis, à l'automne, tous les marrons tombaient par terre. sur la terrasse, et il fallait tous les ramasser, bien sûr. Et puis on les amenait au zoo pour les donner aux animaux, parce qu'il ne fallait rien gâcher. Les seuls souvenirs que j'ai de cette maison, c'est d'une part, on avait une grande bassine sur la terrasse aussi, qui était chauffée par le soleil. Et puis quand il n'y avait pas de soleil, bah, ça servait quand même pour notre bain le soir. Et parfois c'était un peu froid. Parfois c'était même très froid parce qu'on prenait notre bain là de avril à octobre. Et même s'il pleuvait. Mais bon, il paraît que le froid, c'était bon pour la santé. Et puis, le seul autre souvenir que j'ai, c'est qu'au printemps, dans le jardin, ma grand-mère laissait la pelouse, l'herbe de la pelouse monter très haut, pleine de fleurs. Et après, il y avait un monsieur qui venait la faucher et qui amenait toute cette herbe pour ses lapins. Et puis, à Pâques, une année, je devais avoir 4 ans, ben, il nous a apporté 2 lapins, mais c'était des très 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 grands lapins. Et puis on les a gardés, et puis quand on est parti, après nous sommes partis aux États-Unis.
Mais avant de partir aux États-Unis, tu ne m'as pas raconté que tu étais dans le salon de musique de ton père, de ton grand-père. Et il n'y a pas eu un incident dans ton berceau, tu t'es mis à brailler,
non ? Ah oui, ah, effectivement, non, voilà. Je dormais au premier étage dans la chambre des enfants, mais comme je braillais toutes les nuits, ils m'ont expatrié au salon en bas, le salon de mon grand-père. Et puis effectivement, on a été cambriolés. Et puis ils sont rentrés par la terrasse, donc par le salon de musique. Et puis comme je braillais, bah, ils m'ont baillé.
Baillonné.
Ils m'ont baillonné. Ma mère s'étonnait que pour une fois, je ne braillais pas, mais elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Et puis le lendemain, quand ils se sont levés, bon, bah, j'étais sagement dans mon petit lit. Et puis bah, je ne pouvais rien dire parce que quand ils m'ont enlevé l'espèce de mouchoir que j'avais dans la bouche, je dis « mena boum boum ». Les hommes, ils ont fait « boum boum ».
Ah bon ?
Voilà.
Et ça voulait dire quoi ?
Bah, boum boum, bah, ils ont fait du bruit. Ils sont rentrés.
Et alors, ils ont volé des choses ?
Ils ont volé des choses. Ils cherchaient surtout l'argent et des bijoux. Et bon, il y avait un peu de bijoux en bas, mais de toute façon, il n'y avait plus grand-chose parce que les bijoux avaient déjà été volés avant.
D'accord. Tu peux nous parler de la maison ? Il me semble que tu nous as dit que cette maison, pendant la guerre, avait failli avoir quelques déboires. Oui.
Nous habitions dans un des quartiers résidentiels de Munich, un des très beaux quartiers d'ailleurs, et puis pas loin de chez nous habitait Eva Braun, l'amie de Hitler, la maîtresse de Hitler. Mm-hmm. Donc Hitler était souvent là. Et les Américains qui avaient repéré ça avaient décidé de bombarder notre rue pour atteindre Hitler, qui était souvent chez Eva Braun. Donc il y a eu un très grand bombardement, c'était, il me semble, en fin 1944. Mais ils se sont trompés de rue, et c'est la rue derrière nous où toutes les maisons étaient détruites et tous les habitants étaient morts. Et nous, on l'a échappé. C'était pas notre destin. Voilà, et puis à la fin de la guerre, en Bavière, on a eu de la chance parce qu'on a eu les Américains et non pas les Russes, comme dans le Nord et à Berlin. Donc il y a un général américain qui vivait chez nous. Et nous, bah, la maison était grande, on avait 2 étages, il y avait plein de chambres, donc il nous a poussés dans les chambres du 2e étage, sous la toiture, mais ça avait été aménagé, donc c'était tout à fait vivable. Et lui, il vivait dans les chambres de mes grands-parents, au premier étage. Et puis, comme il était quand même gentil, il a dit à mon père, vous êtes un garçon sympathique, vous n'avez pas encore fait des études, est-ce que vous voulez faire des études aux États-Unis? Et mon père a dit oui. Donc, il lui a obtenu une bourse, et puis mon grand-père, il a financé le reste, et mon père est d'abord parti aux États-Unis pour faire des études de commerce international et de business administration, du management en quelque sorte. Et là-bas, il a rencontré un autre monsieur qui s'appelait Peter Grace, qui lui a dit « Vous êtes un homme sympathique, est-ce que vous voulez travailler pour moi à la fin de vos études ?» Et mon père a dit « Oui ». Donc, nous sommes partis aux États-Unis.
Alors, comment vous êtes partis là-bas ?
Ah, nous sommes partis en avion.
En avion.
Ça, c'était un grand moment.
Oui, parce
que... Alors, juste avant de partir, ma grand-mère est allée au magasin de jouets avec ma sœur et moi. Ma sœur, elle a choisi une belle poupée de Käthe Kruse, qui était une des plus jolies poupées allemandes. Et moi, j'ai choisi un ours en peluche de chez Steiff.
Voilà.
Et donc, nous sommes partis en avion. C'était un grand moment parce que personne n'avait pris l'avion jusqu'à là. Donc, on était un peu les vedettes du quartier. Et puis, dans l'avion, on avait des couchettes. Il y avait des sièges en bas et au-dessus, il y avait des lits. Et donc, moi, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'on était dans notre couchette. Moi, j'étais côté hublot. Et en dessous, j'entendais mes parents qui dînaient. Donc, ils avaient un beau dîner, pas comme maintenant, mais avec l'argenterie, une assiette en porcelaine, un peu de champagne, du vin... Bon, c'était un grand moment. Et on est arrivé à New York.
Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où habitais-tu à New York?
On habitait d'abord dans la ville, dans un hôtel. On est resté à peu près 6 mois dans l'hôtel. Et c'était pas mal parce qu'on avait pas mal de place. Et puis en bas, il y avait la réception, le salon, la salle à manger.
C'était une suite.
C'était pour l'hôtel, mais bon, comme on était là un certain temps, moi, je passais mon temps en cuisine.
Ah, petit début.
Et puis, j'ai aidé à sécher la vaisselle d'abord, et puis après il m'a donné les patates à éplucher, et puis bon, après...
T'avais quel âge? 4-5 ans?
J'avais 5 ans.
Oui, 5 ans, près. Ouais, les patates à éplucher à 5 ans.
Ouais, bon, il voyait que je me débrouillais pas trop mal, donc après il me laissait couper des petits trucs, et puis après j'avais le droit de servir, et puis de goûter, et puis bon, c'était très bien, donc je passais mon temps en cuisine avec le chef.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait?
Je ne sais pas.
Et ta sœur?
Ma sœur, souvent, elle lisait, elle dessinait. De toute façon, elle a passé son enfance à lire. Ce qui m'agaçait profondément, parce qu'elle ne voulait jamais jouer avec moi.
Ah! Et alors, est-ce que tu allais à l'école à cette époque-là?
Non.
Non?
Non. J'étais à la maternelle, donc c'était pas très grave. Et puis, il fallait apprendre l'anglais.
Mmh.
Et puis, après, on s'est trouvé un appartement.
Alors comment as-tu appris l'anglais?
Avec les gens.
Sur le
parlant.
Tas. Voilà.
Oui. Et puis, après, on a trouvé un appartement sur Long Island, à Bayside. Et donc, on avait un 3 pièces, avec salon, 2 chambres, au rez-de-chaussée. D'une petite résidence, et puis c'était... Donc là, on est allé à l'école.
C'était sympa?
La maison, oui, c'était assez sympa, oui. Et puis on était dans une école... c'était une école irlandaise catholique.
Ah!
Avec des bonnes sœurs. Puis on avait un uniforme. On avait des jupes vertes. Et puis un chemisier blanc. Et au-dessus, on avait un blazer vert aussi. Et puis les grands, ils avaient une espèce de cravate, garçon comme fille. Et c'était, bon, c'était assez strict, mais moi je me suis... Bah, les professeurs se sont faits à moi et moi je me suis fait au professeur.
Oui, tu t'y es bien plu, t'as...
Ouais, oui, j'aimais bien l'école.
T'apprenais bon, la langue,
J'apprenais, ouais. Bon, j'étais... Bon, le dicté, les dictées, l'orthographe, c'était une catastrophe.
Bien sûr.
Mais... Et puis ça n'a pas changé, hein. Mais c'était bien, non, j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'école. Je me souviens qu'on avait acheté, on a acheté un cocker qui s'appelait Silver. Et puis on avait un chat noir qui avait des pattes blanches qu'on appelait Boots, comme les bottes. Et puis on avait une tortue. Et la tortue, elle vivait sous la télévision. Et bon, ces animaux, bah, ils nous tenaient compagnie. Et puis le chien, bon, il était gentil, mais il avait été maltraité. Donc, il n'aimait pas trop les enfants. Et moi, il m'a mordu assez sévèrement dans l'intérieur de la lèvre, de la bouche, parce que je l'avais mis sur les WC, parce que c'était Pâques et que je voulais lui mettre un beau nœud à la place de son collier. Et puis il a pris peur et donc il m'a mordu.
Bon.
Et c'était assez triste parce que, bon, moi je suis partie chez le médecin, mais à cette époque, aux États-Unis, tout chien qui morde, il était endormi. Donc c'était sa fin.
Voilà. Bon, alors, on a perdu le chien.
Oui, je me suis sentie coupable et j'ai beaucoup pleuré, parce que c'était de ma faute. Il m'aurait pas mordu.
Ça serait bien passé.
Bah oui, bon, ça m'a appris. Et puis, donc on est resté à New York 2 ans et demi. Mon père était pas souvent là, parce qu'il voyageait beaucoup en Amérique du Sud. Nous, le week-end... Ma mère nous amenait souvent en ville au cinéma. Et puis...
Elle parlait anglais, ta mère, quand elle
était arrivée là-bas ? Elle a appris l'anglais. Elle a appris l'anglais surtout à la télévision.
Bien sûr.
Quand elle faisait le ménage, quand elle repassait, quand elle cuisinait, elle mettait la télévision et elle a appris l'anglais comme ça. Et pour mon père, il avait appris comme ça aussi, mais il parlait très bien anglais. Mais à la maison, il fallait parler allemand.
Ah.
Ça, c'était un vrai problème.
C'était une réflexion de tes parents, de ta
non,
mère,
de
ton
ma
père
mère, de ma
ah,
mère.
Ta mère.
Ma ouais. mère ne parlait qu'en allemand.
D'accord.
Et si on lui parlait en anglais, elle ne répondait pas.
Ah, d'accord. C'est un petit blocage psychologique.
Non, elle voulait qu'on garde notre langue maternelle et
d'accord.
que, quand on s'appelle Spielvogel, on doit savoir parler allemand.
Oui.
Tandis que mon père, tu lui parlais en anglais, il te répondait en anglais, il n'y avait aucun problème. Il était moins sévère, il n'était pas sévère du tout d'ailleurs. Voilà, donc on avait l'anglais à l'école et l'allemand à la maison, et puis de toute façon. Dès qu'on rentrait dans notre appartement, c'était l'Allemagne. C'était les règles allemandes. Et puis, ce qu'on mangeait, c'était allemand.
C'était quoi les règles allemandes ?
Ah, tu te lavais les mains, tu t'essuyais les pieds, tu enlevais tes chaussures, tu rangeais ton lit.
C'est pas une mauvaise chose, ça.
Non, ça, c'était pas une mauvaise chose.
Du coronavirus, aujourd'hui, on peut savoir que...
Oui, hein? Ça, c'était pas grave. Mais ce qui était grave, c'est qu'on mangeait toujours comme les Allemands et que nos amis ne voulaient pas venir manger chez nous. Parce qu'il fallait manger la croûte du pain noir. Déjà, il fallait manger du pain noir et pas du pain mis, comme eux. Et puis, il fallait manger les épinards. Et puis, il fallait manger les légumes. Et ils n'aimaient pas ça. Et que quelqu'un qui venait manger chez nous...
Ils ne revenaient pas une deuxième fois.
Ah non, non. Alors, non. Ils disaient, non, tu viens chez moi, mais moi, je ne vais pas chez toi.
Et alors, tu allais chez eux ?
On n'avait pas toujours le droit.
Ah.
d'aller chez eux pour manger.
Ah bon?
Ou pour dormir.
Bon.
Non.
Pourquoi ça?
Bah, parce que ma mère, elle n'aimait pas beaucoup. Elle n'aimait pas New York, elle n'aimait pas les Américains parce qu'elle trouvait qu'ils étaient mal élevés. Et qu'ils étaient, oui, ils n'avaient pas de culture et que, elle voulait pas qu'on acquiert cette espèce de non-culture, une mauvaise habitude américaine. Mmh. Voilà. Donc, par moments, c'était un peu difficile.
D'accord. D'accord. Et alors, cet épisode américain s'est terminé au bout de combien de temps?
2 ans et demi.
2 ans et demi.
Oui, ouais. Parce que comme mon père était tout le temps en Amérique du Sud et que ma mère aimait pas elle aimait pas New York, elle aimait pas les Américains, elle a dit puisque tu es tout le temps en Bolivie surtout, je vois pas pourquoi moi non, ça peut pas être pire. Moi aussi, je veux aller en Bolivie. Donc nous sommes partis en Bolivie.
Comment ça? En avion?
Oui.
D'accord.
Mais je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Je sais qu'on a dormi dans l'avion.
D'accord.
Que ma mère, pour avoir la paix, parce que c'était un voyage quand même très long, c'était à peu près 36 heures.
Ah, mais il y avait plein d'escales alors?
Non, il n'y avait pas tellement d'escales. Et puis on ne sortait pas de l'avion. Et puis c'était la nuit. Et puis les conditions d'hygiène, etc. Mais la nuit, l'avion était très calme. Parce qu'elle avait administré un somnifère à tous les enfants dans l'avion.
Qui?
Ma mère.
Ah bon?
Oui.
Oui. Bon, pourquoi pas?
Oui. Bien sûr, sans demander aux parents s'ils étaient d'accord ou non. Mais...
oui, ça commence.
Et puis l'hôtesse a dit, j'ai jamais passé un vol aussi tranquille. Merci, madame.
Voilà, bon. La potion magique.
Et là, on est arrivé d'abord à Lima.
D'accord.
Et puis à Lima, on est resté.
C'était la capitale.
Du Pérou.
Ah, du Pérou.
Et on est resté 4-5 jours à l'hôtel parce qu'il n'y avait qu'un vol pour La Paz par semaine à ce moment-là.
D'accord. La Paz étant la
capitale de la Bolivie.
Très bien. Donc La Paz, Lima, La Paz, toujours en avion.
Ah oui.
Ouais.
Mais dans un petit coucou avec 4 moteurs.
Oui.
Et puis, ça tombait. Chaque fois qu'il y avait un trou, ça tombait, ça remontait, ça tombait, ça remontait. C'était un vol... c'est un peu spécial, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de voler.
Ah, ouais.
C'est...
Il fallait passer la cordillère des Andes.
Ouais,
c'est peut-être
ouais,
ça qui était
non,
assez...
Mais, moi, je me souviens que de moments où ça tombait.
Voilà.
Et puis, on est arrivé.
À La Paz.
À l'aéroport, qui est au-dessus de la ville.
Oui.
Et il y avait donc le directeur, le futur chef de mon père, qui nous attendait à l'aéroport.
Oui, c'est bien.
Oui, et le chauffeur et tout. Et donc, on est arrivé.
D'accord.
Et on est descendu à l'hôtel. Et puis, là, je ne sais plus. Et puis, après, on a aménagé dans un appartement.
D'accord. La Paz, à 4000 mètres d'altitude, ouais. Est-ce que tu te souviens d'avoir souffert de ça, du point de vue respiratoire?
On
respirait moins bien, quand même.
On n'était pas trop bien, mais ils nous donnaient du maté de coca, donc des feuilles, une tisane à base de feuilles de coca, parce que c'est avec ça qu'on soignait l'altitude.
D'accord.
La maladie de l'altitude.
D'accord.
Donc, on avait ça. Et puis, à ce moment-là, en Bolivie, la Bolivie, c'était après la révolution et la réforme de 52. Et c'était un pays pauvre. Il n'y avait pas grand-chose. Et les conditions sanitaires étaient...
Moyennes.
Étaient plus que moyennes, elles étaient même dangereuses, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital, il y avait deux vieux médecins, un hongrois et un polonais, mais les Indiens se soignaient avec le sorcier.
Ouais. Et toi, tu avais deux vieux sorciers, donc il ne fallait pas tomber malade.
Il ne fallait pas tomber malade.
D'accord.
Il ne fallait pas boire de l'eau, il ne fallait rien boire, il ne fallait rien manger à l'extérieur. Et Donc, on a vécu. Mon père faisait des importations.
Qu'est-ce qu'il faisait, ton père ?
Mon père, il travaillait pour Grayson Company et il s'occupait.
C'était de la chimie, ça ?
Non, ils avaient un peu de tout. Ils avaient des avions, une ligne d'avions.
D'accord.
Panagra. Et puis, ils avaient Graceline, ça, c'était les bateaux.
D'accord.
Ils avaient des mines. Puisque les Grayson Company, c'était deux frères qui avaient commencé à faire fortune en exportant le guano. C'était le...
Galapagos.
Oui, des Galapagos vers les États-Unis comme fertilisant, comme engrais.
Tout à fait.
Donc après, ils ont créé une ligne de bateaux. Et puis après, ils ont créé des mines. Ils ont créé General Electric.
Ah bon ?
Oui.
C'est eux ? Ah,
ouais.
D'accord.
Oui. Et puis, donc, en Bolivie, mon père s'occupait des mines. Il s'occupait d'importer de la machinerie, des tracteurs, de lait en poudre, des sardines à la sauce tomate.
D'accord.
Et puis, des tas d'autres choses dont je ne me souviens pas. Donc, le premier temps, on mangeait... sardines à la sauce tomate, du corned beef, donc c'était une espèce de viande en boîte aussi, du lait en poudre, et puis bien sûr des oranges et des bananes, mais on n'achetait pas de viande sur place. Et puis, parce que dans...
Ah, tu l'achetais où, la viande, alors ?
Il n'y avait pas de viande.
Ah, il n'y en avait pas.
Il y avait de la viande de porc, mais comme il y avait le ténia dans la viande de porc, on n'en mangeait
bien
pas.
Sûr, bien sûr.
Et puis, de temps en temps, il y avait un poulet.
Ah,
ça, c'était poulet. La fête, oui. C'était des Juifs allemands qui s'étaient installés... déjà depuis un certain temps à La Paz, et qui faisait commerce d'épicerie, qui faisait certaines choses, importait d'autres choses, etc. Donc, de temps en temps, il y avait un poulet qui venait d'un élevage qu'eux, ils surveillaient. Voilà.
Et cet appartement, c'était bien ? C'était...
Oui, c'était bien.
C'était spacieux, spartiate.
C'était bien. Le seul problème, c'est qu'on était au troisième étage, avec ascenseur. Mais comme il y avait souvent des coupures d'électricité, il fallait éviter de prendre l'ascenseur. Parce que quand il y avait coupure d'électricité, tu pouvais
dedans.
Rester 6 à 9 heures, plus, dans l'ascenseur.
Ouais, mais tu sais pas, quand il y a une coupure d'électricité...
Donc tu prends pas l'ascenseur.
Donc, voilà.
Oui, mais monter 3 étages à l'altitude...
Ah oui, ça a une autre dimension que...
Oui, surtout quand tu as ton sac avec tes livres, etc.
D'accord. Bon.
Donc, on a vécu là d'abord, et puis à ce moment-là, on avait des cours privés, parce que quand on est arrivé à La Paz, il n'y avait pas d'école américaine. Et ma mère ne voulait pas nous mettre dans l'école allemande qu'il y avait, parce que l'école allemande n'acceptait pas les enfants juifs.
D'accord.
Et bien qu'étant pas juif, elle a dit non,
par
ça,
principe.
On l'a déjà eu. On ne le fait pas.
Ouais.
Donc, elle s'est renseignée et on a eu des cours par correspondance du Calvert System, qui était un système de cours pour les enfants jusqu'au bac, avec un manuel pour les parents et un manuel pour les enfants. Et donc, les parents, ils suivaient dans le manuel...
Ils accompagnaient.
Chaque jour, oui. Ils faisaient le cours, ils avaient qu'à lire tout et expliquer.
Et alors, tu as fait ça jusqu'au bac ?
Non. Non, on a fait ça pendant 6 mois. Bon, c'était pas la tasse de thé de ma mère. Et puis, ils ont commencé.
Mais le cours était en allemand
et... Non, en anglais.
En anglais ?
En anglais.
D'accord.
Et puis, on avait aussi des devoirs et puis on avait des examens qui renvoyaient à Baltimore, Maryland. Là-bas, ils étaient corrigés et notés.
D'accord.
Mais ça pouvait aller jusqu'au bac. Et puis, comme ma mère, ça ne l'intéressait pas très de nous donner des cours, et de nous surveiller. On a trouvé un vieux Hongrois.
Tu veux un verre d'eau?
Ouais.
Alors, tu disais, tu as trouvé un vieux Hongrois.
Oui, qui venait nous faire les cours.
D'accord.
Et ce Hongrois.
C'était sympa?
Ah oui, très sympa. Parce que souvent, on n'était pas levé quand il arrivait.
D'accord.
Et donc, il avait une boîte avec des petits bonbons. Une boîte en fer avec des petits bonbons.
D'accord.
Donc, il venait dans notre chambre.
Ah bon?
Et puis, il disait, voilà, si vous l'avez, vous aurez droit à un bonbon.
Si vous vous levez?
Oui.
Ah bon, déjà pour se lever.
Oui,
bon, ça commence tout. D'accord.
Donc, pendant ce temps-là, il s'occupait que la bonne fasse notre petit-déj.
D'accord.
Et puis...
C'était un précepteur.
Après, il nous faisait cours.
C'était un précepteur?
Non, mais il était gentil.
Mais il faisait cours de quoi? Et en quelle langue?
En anglais.
D'accord.
En anglais. Et puis, c'était facile, il suffisait de suivre le manuel. Hein.
Ah, il suivait le manuel.
Oui.
D'accord.
Et puis, après ça, on a vu qu'il y avait d'autres enfants qui étaient à peu près dans le même cas. Donc, les parents se sont réunis, ils ont dit, on pourrait les mettre ensemble. Et puis, comme ça, on engage un professeur ou deux. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et au début, on devait être... En tout, on devait être 15.
D'accord.
Et puis, ça grandit. Et puis, l'ambassade américaine a dit, c'est une très bonne idée. Bon, donc, on va financer les cours. Donc, ils ont financé les cours et les professeurs. Et puis, alors, les professeurs, d'abord, on avait eu des... En fait, c'était des Allemands qui parlaient anglais ou des Polonais qui parlaient anglais. Et puis, après, ils nous ont trouvé un professeur par-ci, un professeur par-là, parce que, il y a à l'ambassade, certains, ils avaient eu une expérience.
L'ambassade d'Allemagne, alors?
Non, des États-Unis.
Des États-Unis.
Et puis, il y avait Point Four, c'était la mission d'aide au développement en Bolivie.
Mm-hmm.
Donc là, il y avait un peu d'armée, il y avait les Marines, donc là... Et puis, donc ils ont dit, ceux-là aussi pourront donner des cours. Donc on a eu des GIs, on a eu des Marines, on a eu un peu de tout. Et puis après...
Mais donc des militaires,
ouais.
Et qui donnaient des cours, ils avaient un bagage d'enseignants,
ouais. Non, certains oui, d'autres non. Moi je me souviens, on avait un prof d'histoire, c'était un militaire, il était sergent, mais il était passionné d'histoire. Et puis, je n'ai jamais eu des cours d'histoire comme ça. C'est le seul moment où ça m'intéressait. Ils nous dessinaient l'histoire sous forme de bande dessinée au tableau.
Ah, super.
Et puis, ils nous racontaient la bande dessinée. Quoi.
Des histoires,
oui.
Voilà.
Et puis, je me souviens, on avait étudié Cléopâtre. Donc, il a fait une espèce de bonne femme avec des seins. Et puis, il lui a collé un serpent dans la main qu'il appelait Sam. Et puis il a dit, Sam, il a mordu la poitrine de Cléopâtre, donc Cléopâtre est morte.
Voilà. Ça, c'est vrai. Mais oui, c'est une histoire vraie.
C'est à peu près de quoi je me souviens
pour
l'histoire.
Donc c'était assez rustique tout ça, c'était pas. C'était assez bon enfant.
La Bolivie était rustique.
Oui, mais est-ce que c'était bon enfant ou il y avait une discipline
Non, il y avait une discipline. Mais...
Américaine.
Oui.
Assez souple.
Il fallait être là à l'heure, il fallait faire ses devoirs, et en classe il fallait être sage, il fallait pas parler, on avait une relation plus amicale avec les professeurs, peut-être que dans une école française où il fallait les appeler monsieur, madame, on les appelait par leur prénom.
C'était assez cool quoi.
Ah oui, c'était très cool.
D'accord.
Oui. Et puis de toute façon... si on... Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu des vrais problèmes avec, en classe. Puis, quand ça n'allait pas, bah, ils te disaient ce qui ne valait pas. Et puis, à toi de te corriger.
Tu travaillais bien, tu avais les bonnes notes.
J'avais toujours suffisamment pour passer. Bon, ils disaient, sur mes carnets, ça disait toujours « peut mieux faire ».
Oui.
Mais j'avais toujours. Il disait que j'étais un enfant sympathique, que j'ai aidé mes camarades, et que en ce qui concerne les études, bah, je pourrais mieux faire si je m'appliquais un peu plus.
Bon. D'accord. Et ta sœur?
Ma sœur, elle avait des bonnes notes, mais bah, ma sœur, elle était plus tranquille, et puis on s'entendait pas bien.
D'accord.
On ne s'entendait pas bien parce qu'elle m'ennuyait, parce qu'elle était toujours... Elle était lente et sage.
Et ennuyeuse.
Pour moi, elle était ennuyeuse.
Oui, oui. Oui.
Mais bah, on n'était pas pareil. Moi, quand on a quitté l'appartement, on est allé vivre dans une maison.
Une jolie maison.
Oui, c'était pas mal. Et puis, bah, moi, j'allais dans la rue, j'allais causer avec les Indiens, je passais du temps avec eux, j'allais me chercher des amis. Bah, ma sœur, elle restait dans sa chambre à lire toute la journée.
Voilà. Et dans cette maison, alors, vous aviez du personnel ?
Ah oui, on avait une cuisinière, on avait une bonne, on avait un chauffeur et puis on avait un jardinier.
D'accord, 4 personnes.
Ouais.
Et c'était des Boliviens, des indigènes ?
C'était des Indiens.
Des Indiens qui parlent espagnol ?
Oui, plus ou moins bien, parce qu'il y avait 2 tribus, les Quechua et les Aymara.
Ouais.
Et bon, ces 2 tribus, ils ne s'entendaient pas forcément toujours très bien. Mmh. On a eu... Donc ça, c'était les Indiens. Et puis, quand on habitait dans cette maison-là, on a eu une qui s'appelait Neysa, qui était... de vestido, ça veut dire qu'elle avait une robe. Les Indiens, ils avaient leur vêtement traditionnel.
C'était quoi leur vêtement traditionnel?
Bah, c'était une grande jupe avec un poncho, une espèce de couverture et un petit chapeau.
Chapeau melon?
Oui, un chapeau melon, ouais. Pour les femmes avec des tresses.
Mm-hmm.
Puis les hommes étaient habillés bon, avec ce qu'ils trouvaient, hein, ses ouais. pantalons et... une chemise et donc bah ils s'entendaient pas forcément bien et la cuisinière elle était Aymara et Neysa elle était Quechua et Neysa était Aymara. En plus elle était un peu plus évoluée puisqu'elle avait une jupe un chemisier normal comme nous aussi. Donc on appelait ça des vestidos, c'est-à-dire de robes.
D'accord.
Et un jour, la cuisinière lui a mis des bris de verre dans son riz.
Ah oui, d'accord. Des bris de verre
ouais.
dans son riz.
Ouais.
Ah oui, bah, à quelle fin vous la zigouillez ?
Oui, oui.
Ouais. Bon, mais ça se passait chez vous, ça ?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Bah, en plus, elle l'a dit.
Elle l'a dit avant ?
Non, après.
Ah oui, d'accord. Et mais... l'autre, elle n'a pas mangé, ça ?
Si, elle a mangé.
Et alors ?
Mais, il ne s'est rien passé. Elle a dû le moudre soit trop fin, soit elle a menti, soit...
Bon. Oui, il ne s'est rien passé.
Non, il ne s'est rien passé, mais ma mère l'a viré.
Parce qu'il ne s'est rien passé ?
Non.
Ou celle qui a mis les bris de verre ?
Celle qui a mis les bris de verre.
Oui, bien fait quand même, ça, c'est toxique, ça, quand même.
Des fois qu'elle se trompe de personne.
Oui. Et alors ?
Ben, on en a pris une autre.
Oui.
Puis, à ce moment-là, ma mère était enceinte, et elle attendait mon frère, et donc ma grand-mère est venue.
Ah, alors ?
Et ma grand-mère est venue pour s'occuper de ma mère, parce que ma mère est restée les derniers mois, elle est restée couchée.
D'accord. Oui, et... une grossesse à 4000 mètres d'altitude, ouais, ça ne doit pas être évident. Ouais. Évident.
Et puis, donc, elle est arrivée, et puis on lui a donné une chambre, et puis c'était sympa, parce que tous les soirs, elle nous racontait une histoire. Mais il y avait un problème, parce que dans la maison à côté de nous vivait un Indien et il avait un coq.
Ah.
Et ce coq, bah, tous les matins, il chantait.
Comme un coq qui se respecte, oui.
Souvent vers 4h, 5h du matin, et ça réveillait ma grand-mère.
D'accord.
Donc, donc ils ont essayé de parler avec l'Indien pour lui apprendre, pour lui dire qu'il enferme son coq. Mais bon, il n'avait pas de quoi l'enfermer, et puis il ne comprenait pas pourquoi ça pouvait déranger, etc.
Et puis il
ne
voulait pas comprendre, voilà.
Et puis, donc, ma mère dit, bon, on va acheter le coq.
Ouais.
Donc, on a acheté le coq, on l'a mangé. Mais bien sûr, quelques jours après, il y avait un nouveau coq.
Ah oui, d'accord.
Bon, mais il prenait des petits des coqs qui n'étaient pas encore adultes.
D'accord.
Donc, au début, ça allait.
Il ne sortait pas.
Mais... Pendant 6 mois, bon, ça allait à peu près, ou 3 mois. Et puis, le coq commençait à chanter.
Bon.
Donc, on a acheté le coq.
Alors que c'était bien, c'était l'occasion de manger de la viande.
Oui, puis lui, il faisait une bonne affaire parce qu'il se faisait bien payer.
D'accord.
Voilà, et puis après, on a déménagé.
Ah, d'accord. Pour aller dans une maison, un appartement?
Dans un, doit aller dans une autre maison, mais plus bas, à Kalakoto.
D'accord.
Dans la rue numéro 9.
Oh.
Et on habitait dans la même maison que le président de la République.
Bolivien?
Oui.
Bolivienne.
Oui.
Ça, c'est bien,
il
ça.
Était, c'était Siles Soisso, si je me reviens bien, à l'époque.
D'accord.
Et là, on avait une maison... c'était bien, parce qu'on avait une maison avec une piscine.
D'accord.
Bon, on ne s'est jamais beaucoup, beaucoup baigné, mais non.
Pourquoi?
Bah, parce que c'est...
Hygiène
Hygiène, parce que l'eau coûtait cher, parce que tu n'avais pas toujours de l'eau, parce que fallait la remplir, parfois.
Mmh.
On avait de l'eau... on avait de l'eau que... 2 heures par jour. Hein.
D'accord.
Et puis souvent l'eau sortait couleur café au lait.
Ah oui, d'accord, dans la piscine ça fait des ordres. D'accord.
Ouais.
Ok.
Donc on avait mis un peu d'eau pour que mon frère puisse patauger, mais pas plus.
Alors il est né quand ton frère?
Mon frère il est né en 55, le 31 mai 1955.
Et donc il s'appelait comment?
Pedro.
Pedro.
Oui.
Alors, on lui a donné un nom espagnol au
Non,
lieu
non,
d'un
il
nom...
s'appelait en fait, il s'appelait Peter, comme le frère décédé dans la guerre de ma mère,
ouais.
Mais né en Bolivie, bah, il s'est tout de suite appelé Pedro.
Oh.
Et il est toujours resté Pedro.
D'accord. Et sur sa carte d'identité, c'est Pedro?
Non, c'est marqué Peter.
Ah, d'accord.
Oui. Mais. Bon. Personne ne l'appelle Peter.
Et Pedro, ça se passait bien avec Pedro?
Bah,
ouais, quand tu étais gamin, c'était...
Ouais. Bah, Pedro, il faisait des bêtises.
Oui.
Il faisait des bêtises tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Bon.
Donc, il ne fallait pas le laisser seul une minute.
D'accord.
Parce que, bah, il faisait... Un jour, je me souviens, il avait allumé des bougies dans sa chambre, il avait fait le noir, il avait mis tous ses peluches devant les bougies, et puis il a dit « je fais la messe ».
Ah, d'accord.
Donc, mais les peluches étaient très... commençaient à cramer avec
ouais,
les bougies.
D'accord.
Il a chassé les poules dans la piscine, elles ne pouvaient plus sortir, elles pataugeaient dans l'eau.
D'accord.
Il faisait plein de bêtises que j'oubliais. Mais c'était un... Je m'entendais bien avec lui.
C'est un bon garçon.
Oui.
Mais
ouais.
Voilà, il fallait s'occuper de lui.
Bah oui, il fallait s'occuper de lui. Et dans cette maison, donc, face à au président, c'était bien. Parce que la rue était gardée.
Ah oui, vous étiez tranquille, là.
Oui. Et puis, je passais... Donc, il y avait 3 ou 4 petites maisons en bois... ou pour les gardes.
Ouais.
Donc moi, je passais mon temps dans la petite maison avec les gardes, à parler avec eux, et puis...
D'accord. T'avais quel âge à ce moment-là?
Quand Pedro est né, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Et puis...
T'allais toujours vers les autres.
Oui. Ouais. Voilà. Et puis je leur amenais à manger.
D'accord.
Et puis, je leur donnais quelques boîtes de sardines aussi, donc ils étaient contents.
Aller vers les autres avec toujours une relation alimentaire avec la nourriture.
Ils étaient pauvres. Hein,
si tu veux, c'est quelque chose qu'on va, dans la suite de nos podcasts, qu'on va retrouver assez régulièrement. Bien, alors, La Paz, est-ce que tu avais des amis ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu avais comme
amie? J'avais ma meilleure amie qui s'appelait... D'abord, j'avais une amie qui s'appelait Nancy Bunel.
Oui.
Et puis, elle est partie. Le problème, c'est que nos amis de l'école, les Américains, ils arrivaient souvent pour des contrats de 2 ans.
D'accord.
Donc, t'avais une amie, et puis au bout de 2 ans, elle partait. Donc, il fallait te refaire une autre amie, etc.
Oui, mais attends, je comprends pas, là... Pourquoi 2 ans de contrat pour les profs?
Non, pas pour les profs, pour les Américains qui venaient pour l'ambassade. Ah,
d'accord.
Ou pour Point Four.
D'accord, etc. Oui.
Contrats de 2 ans.
Des contrats de 2 ans, d'accord.
Ça leur suffisait largement.
Oui, je pense que ça devait les marquer un petit peu.
Donc là, je me suis trouvé une amie qui s'appelait Wilhelmina Schomans. Qui était son père était directeur de Philips en Bolivie.
D'accord. Donc, Philips, l'électroménager.
Oui.
D'accord.
Oui, ils faisaient aussi pour ils équipaient les usines. Ils faisaient des tas de choses. Et donc, on s'est trouvé dans la même école et puis elle est devenue ma copine.
D'accord. Tu voyais ton père régulièrement?
Oui. Il n'était pas beaucoup là, mais parce qu'il voyageait beaucoup et puis il travaillait aussi souvent très tard.
D'accord.
Mais il était là et puis le dimanche, on le voyait à midi quand on déjeunait tous ensemble.
D'accord. Et si ton père voyageait, est-ce qu'il vous emmenait en voyage? Est-ce que tu as voyagé en Bolivie?
Avec lui, non. Non, il allait pour les affaires, il allait dans les mines... Et puis, il n'y avait pas d'autre. Enfin, les conditions sanitaires étaient dangereuses.
Oui.
Et puis, quand il allait quelque part, quand il allait dans les mines, nous, on allait à l'école. Et puis, les mines étaient interdites aux femmes aussi. Hein.
D'accord.
Donc, on faisait des balades aux alentours de La Paz. Et puis, il ne faut pas oublier, en plus, il y avait très peu de routes.
Oui, d'accord.
Et puis, si tu voulais sortir, si tu sortais et qu'entre-temps, la route disparaissait parce qu'elle était descendue 300 mètres plus bas, tu ne rentrais pas pour plusieurs jours. Hein.
Oui, d'accord.
Donc... Non, on est allé, après on allait en vacances, on allait à Cochabamba, qui est une ville qui est plus bas, qui est déjà dans presque la jungle.
Ah.
Et là, s'il faisait meilleur, il y avait une piscine, il y avait des oranges et des mandarines dans le jardin de l'hôtel. Et donc là, on passait des vacances, c'était sympa.
Mais
on restait essentiellement à l'hôtel.
D'accord.
Et puis en Bolivie, il n'y avait pas de transport ou très peu. Les bus étaient pleins de monde. Ils étaient accrochés aux portes qui n'avaient pas de porte, etc. Et puis tu attrapais des puces aussi. Et puis des maladies.
Oui, c'était un peu éprouvant. Quoi, hein? On s'habitue.
Bon.
Mais, alors, tu es resté combien de temps en Bolivie en
fait? On est resté de... 6 ans à 14 ans.
6 ans à 14 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans?
À 14 ans, mes parents ont divorcé.
D'accord.
Et donc, ma mère a quitté mon père et on est rentré en Allemagne.
D'accord.
À Munich, chez ma grand-mère d'abord.
D'accord. Et quand tu quittais la Bolivie, tu voyageais comment? En train, en avion?
Non, en avion.
Tu ne prenais pas le cargo? Tu me dis que tu prenais les cargos.
Ah si, tu as raison. Mais la dernière, quand on a quitté pour la... on rentrait tous les 2 ans pour les vacances.
D'accord.
Pendant qu'on était en Bolivie, l'entreprise nous payait les vacances, l'avion pour rentrer en Europe tous les 2 ans.
D'accord.
Donc tous les 2 ans, on allait passer 2 mois, 3 mois à Munich.
D'accord. Et là, alors, donc, tes parents divorcent,
ouais.
Ta mère quitte ton père,
ouais.
Et retourne en Europe.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
À Munich. C'était un peu triste. Hein. D'abord, moi, je ne voulais pas quitter mon père.
Non.
Et puis, on arrive à Munich, on a d'abord vécu chez ma grand-mère.
Dans la grande maison.
Dans la grande maison.
Ouais, t'es bien là, t'étais bien.
Oui, mais ma mère aimait pas du tout, parce qu'elle voulait pas, elle avait pas son indépendance, donc elle voulait son indépendance, donc elle s'est trouvée un appartement.
D'accord.
Et puis donc on a aménagé dans un appartement, dans une petite résidence toute neuve, et quand elle a annoncé ça à ma mère pour dire qu'elle déménageait. Ma grand-mère, elle était triste. Et puis, 2 ou 3 jours après, elle dit à ma mère, moi aussi, je déménage.
Ah bon ?
Ah bon ? Tu déménages où ? Nous, on habitait au B. Elle a dit, moi, j'ai pris un appartement au A.
D'accord.
Donc, dans la même résidence.
Mais c'était pour quoi ? Pour enquiquiner ta mère ?
Non, parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans la grande maison.
Mais il y avait ton grand-père encore.
Ah non, il était mort.
Ah, d'accord, ton grand-père était mort.
Moi, j'ai très peu de souvenirs de mon grand-père, à part qu'il boitait.
D'accord.
Et qu'il faisait de la musique.
Qu'il jouait de la musique.
Mais sinon...
Et qu'il était directeur de la banque.
Oui, de la Bayerische Hypothek und Wechselbank.
Voilà.
Mais il est parti, il est décédé en 54.
Il est mort de sa belle mort ou...
Non, il a eu une crise cardiaque.
D'accord.
Et puis il n'était pas en très bonne santé.
D'accord. Donc ta mère s'ennuie, ta grand-mère s'ennuyait et elle est venue coller au basque de sa fille.
Elle s'ennuyait pas, mais bon, elle aimait bien. Elle voulait être grand-mère et avoir des petits enfants,
voilà,
et
oui.
S'occuper. Ma grand-mère était la 8e de 9 enfants. Et
d'accord.
Elle a perdu ses parents très tôt. Sa mère quand elle avait 9 ans et son père quand elle avait 11 ans. Et elle, toute sa vie, elle voulait avoir une famille.
D'accord.
Une vraie famille.
D'accord.
Et ma mère voulait tout, sauf une famille.
Ouais, ça devenait compliqué, là.
Oui. Mais donc, ma grand-mère était quand même bien pratique pour s'occuper de mon frère et pour jeter un coup d'œil sur nous quand on était là pendant les vacances, etc. Donc, et puis de toute façon, elle était libre d'aller habiter où elle voulait. Hein.
Bien sûr. Et alors, vous avez habité combien de temps C'était une maison ou un appartement ?
C'était un appartement. Mm-hmm. Et on a habité 5-6 ans.
5-6 ans.
Même un peu plus, puisque ma mère. Après, ma mère, elle est partie à Sophienreuth.
D'accord.
Donc...
Qu'est-ce qui se passait à Sophienreuth ?
Elle a rencontré son baron.
D'accord.
Et donc, elle est partie habiter chez lui.
Dans son château.
Dans son château à Sophienreuth.
D'accord.
Et puis, au début, elle gardait l'appartement. Elle le gardait parce que pendant les vacances, elle venait à Munich s'occuper de nous.
D'accord.
Et puis, après, une fois qu'on avait passé notre bac, ma sœur, elle avait un logement. Elle avait
d'accord.
Un petit appartement. Elle a récupéré l'appartement de mon ex-copain.
D'accord.
Et puis, moi, j'étais partie en Bolivie. Donc,
t'es retournée en Bolivie.
Oui.
À quel âge ?
Après le bac.
T'avais quel âge ?
18.
19 ans.
Oui.
D'accord. Donc, tu as quitté ta mère ?
Je vais aller pour les vacances.
Ah, en Bolivie ?
Oui.
Ça a été pour les vacances, ouais, d'accord. Ouais, et là, qu'est-ce qui s'est passé?
On est avec ma sœur et mon frère, et puis...
les trois enfants, ils sont partis en même temps.
On est parti trois ou quatre fois en Bolivie pour les vacances.
Ah, pour les vacances, ouais. D'accord.
Pour voir mon père.
D'accord.
Et on est arrivé, on a passé les vacances. Mon père était remarié avec Hilde, et puis il y avait Anita, la fille de Hilde, que Hilde avait eue avant son mariage.
D'accord.
Et voilà, mon père était content de me voir, moi j'étais contente de le voir. Et puis à la fin des vacances, il me dit, mais t'as qu'à rester.
D'accord.
Alors, parce que je voulais faire médecine. Alors il dit, tu peux commencer médecine ici.
D'accord. Bon. Sachant que Hilde était médecine.
Oui, elle était médecin.
D'accord.
Elle était médecin. Et puis, je dis, comment c'est médecin? Mais je veux bien rester.
D'accord.
Alors, il me dit, tu restes. Et puis...
Donc, Pedro et Susie, ta sœur, sont repartis.
Dans l'avion.
Ils sont repartis.
Oui, et puis moi, je suis restée.
D'accord.
Et puis, je m'occupais de la maison. Entre-temps, il avait trois enfants. Il avait trois enfants. Une bonne, un chien, etc.
Donc, c'était tes demi-frères.
Ouais.
Qui s'appelaient comment?
Il y avait Anita. Et puis, à ce moment-là, il y avait Sabine, qui naissait. Et après, il y a Robertito.
Ouais.
Et puis, Franz, je n'ai pas connu tout de suite.
D'accord.
Et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait que Sabine, et après il y a eu Robertito.
D'accord.
Ouais, je ne sais plus. Voilà, donc je suis restée.
Tu es restée.
Je suis restée.
Dis-moi, quand tu avais 20 ans,
ouais.
Tu peux nous raconter l'épisode de Che Guevara, si tu t'en souviens?
Il n'y a pas eu vraiment d'épisode de Che Guevara. Il était en Bolivie.
Justement.
Oui, mais dans le journal, il y avait marqué qu'il était toujours là. Et puis un jour, on l'avait amené, c'est tout.
SIA l'a fait descendre. Parce qu'il me semblait que dans des discussions préalables qu'on avait eues ensemble, c'était un épisode qui t'avait frappé, ça. Non, je me trompe.
Ça m'a frappé après. Mais à l'époque, pas plus que ça.
C'était de l'actualité quotidienne.
Oui, oui. Et puis, tu n'avais pas beaucoup de nouvelles.
D'accord. OK. La vie avance, là.
Et l'heure aussi.
L'heure aussi. Ça va? On peut continuer encore un peu?
Quelle heure est-il?
Il est 3h moins le quart.
Oui.
Hein?
Un quart d'heure.
Allez, en un quart d'heure. Eh bien, tu vas...
Donc voilà, en Bolivie, je suis tombée enceinte.
Alors, t'es tombée enceinte,
oui.
D'accord, ouais.
Voilà, je suis tombée enceinte. J'étais un peu ennuyée, parce que, Et puis, je me souviens, c'était à Pâques, en 67. Mon père m'appelle... Et il me dit, j'ai à te parler. Alors je vais voir mon père. Il dit, est-ce que tu es enceinte? Je dis, oui. Tu vas te marier? Non. La discussion se termine là.
Bon, c'était pas trop.
Voilà, il me dit, et c'est pour quand? Je dis, en principe, c'est pour début juillet. Bon, tout ça se passe bien? Oui. Bon, voilà.
Bon, c'est presque un entretien d'embauche, quoi. D'accord.
Et donc, Danito est né le 3 juillet 1967.
Voilà, à La Paz.
À La Paz.
Ça s'est bien passé.
Oui, je suis... la veille, on avait mangé des shrimps.
Oui.
Le soir. Et puis, avec le mayonnaise, je me souviens, fait par moi. Et... Le pied de ma chaise s'est cassé.
C'est tombé.
Et je suis vague, mais pas juste un peu, mais pas beaucoup. Je ne me suis pas fait mal ni rien. Mais le lendemain à midi, je commençais à avoir les premiers symptômes. Donc, il m'a amené à l'hôpital.
D'accord. Ah oui, ça a accéléré peut-être un peu l'accouchement.
Et puis, à 14h30, Donito était né.
D'accord.
Voilà, donc vite fait, bien fait.
Bon, très bien. Donc, ça s'est bien passé. Ouais. Et tu es resté combien de temps en Bolivie avec,
Donito? Je suis resté une petite toute petite année. Alors, quand Donito est né, bon, je me souviens, c'était très désagréable parce qu'on m'a amené mon bébé. Et puis, bah, il était assez foncé, un peu jaune. Et puis surtout, il avait les cheveux noirs. Mmh. Alors, j'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est à moi? Ouais. Oui. Il me dit, mais vous inquiétez pas. Parfois, souvent, ça tombe, les cheveux. Et, bah,
ouais, le jaune, toujours les cheveux châtains.
Oui, mais c'était vraiment
très, noir très de foncé. Chez noir.
Ouais, quand tu es blonde, ça surprend quand même un peu.
Bon, d'accord.
Et bon, ils m'ont dit, bah, vous inquiétez pas, et le teint aussi, ça va s'arranger.
Bon.
Et c'est bien à vous.
Bon. Et puis ça s'est bien arrangé.
Oui, ça s'est bien arrangé.
Voilà.
Voilà, donc bah, je suis partie parce que ma mère a beaucoup insisté.
T'es partie de Bolivie.
Oui.
D'accord. Non, parce que c'est pas forcément facile de suivre les allers-retours entre la Bolivie et l'Allemagne.
Oui, ouais, j'ai quitté La Paz.
Oui.
Parce que ma mère voulait que je fasse des études.
D'accord. Alors, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme études?
Ben, je voulais être vétérinaire, mais ça, c'était avant.
D'accord.
Et comme ma mère ne voulait pas que je sois vétérinaire, elle a dit, ça, c'est pas un métier pour les femmes, il faut faire médecine.
Ah bon, c'est revenu encore sur le tapis.
Mais moi, je ne voulais pas faire médecine, j'ai horreur des malades.
D'accord.
Et donc, elle dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah, je ne sais pas. Bon, et finalement, elle dit, bah, tu pourrais faire une école hôtelière. Je dis, oui, je veux bien faire cuisine.
D'accord. Cuisine?
Oui.
Dans spécialité dans oui. L'hôtellerie?
Bah, à ce moment-là, tu apprenais ça...
Oui, tu apprenais la cuisine, mais tu apprenais aussi la gestion d'un hôtel.
Ben, le problème, c'est qu'à ce moment-là, oui, effectivement, c'est une formation très complète qui a duré 2 ans au Tegernsee, à côté de Munich. C'est une petite école privée. Mais tu apprenais tout, aussi bien le ménage que diriger le personnel, bien que sûr. La réception, que pâtisserie, boucherie, cuisine... Mais les filles, bah, on les poussait plus vers la réception et
l'accueil,
les ménages, les chambres, que vers la cuisine.
D'accord.
Donc, je fais ça. Et dans cette école, on avait aussi un hôtel et un restaurant où on avait l'entraînement pratique et nos cours pratiques, puisque
d'accord.
C'est nous qui entretenons et cuisinons pour l'hôtel et accueillons les visiteurs. Et un jour, je vois un monsieur qui bah, il était sympa. Et puis, bah, il était là plusieurs jours. Et puis, bah, on est rentré en conversation. Et puis, il m'a raconté qu'il venait de Berlin et qu'il avait, une ou deux fabriques de chaussures. Mais qu'il avait aussi un hôtel à côté de Freiburg, sur le Feldberg.
D'accord.
Et puis il me dit, mais tu voudrais pas aller faire ton premier travail, tu voudrais pas venir travailler là-bas? Alors je dis, ouais, pourquoi pas, ouais. Bon, c'était sympa, donc je dis, ouais, je fais quoi? Il me dit, bah, tu vas t'occuper de la réception, et puis... Bon, on va voir ce qu'on peut te donner d'autre à faire. Bah, viens sur place et puis on en parlera. Bon, donc je suis allée avec ma mère sur place voir l'hôtel. Et puis il m'a gentiment accueilli, il m'a montré l'hôtel. Et puis là, il m'a présenté au directeur en disant, voilà, c'est... Elle va travailler ici à la réception et puis on va voir ce qu'elle a envie de faire d'autre. Bon. Et alors je dis, mais je pourrais aller en cuisine. Elle me dit, non, cuisine, ça va être difficile, réception et cuisine. Ça va être compliqué.
Il faut un peu de pratique.
Bah, surtout les horaires, etc. Il me dit, mais tu pourrais faire le bar.
Ah.
Je dis, ah oui, je peux faire le bar. Bon, ben, je vais faire le bar.
D'accord.
Donc, dis, voilà, tu vas l'ouvrir avant le déjeuner, pendant une heure. Et puis, le soir, de 6h à 8h, tu ouvres le bar aussi. Et...
D'accord.
Dis, oui, oui, ça me va bien. Bon, j'ai ouvert le bar.
D'accord.
Donc, et puis, le bar, c'était bien parce que j'étais chef. J'étais toute seule et voilà. Je faisais comme je voulais.
D'accord.
Et donc, j'avais des clients, ça marchait bien.
D'accord.
Et puis, je leur disais aussi, mais à midi, le soir, à table, il faut prendre un peu de vin. Bon, bah, vous prenez une bouteille, prendre la garde, et puis vous buvrez le reste demain, etc. Et puis,
d'accord. Bon.
Voilà, donc je faisais ça. Et puis, réception, je faisais un peu, toujours le moins possible. Mais comme le directeur et la chef réceptionniste n'osaient rien dire puisque j'étais sous l'aile
du
patron, ça leur plaisait pas trop.
D'accord.
Mais bon.
Oui, mais tu avais ton statut.
Et puis comme le patron, il était en hiver, il venait souvent. Et puis, on avait une superbe piscine à l'intérieur, chauffée. Et puis, le soir, après, quand tout était fermé, il me disait, bon, bah viens, on va aller nager. Donc, il avait la clé de la piscine, et donc on allait nager tous les deux.
D'accord.
Et c'était magnifique parce que la piscine avait une grande baie vitrée, qui donnait sur le Feldberg, donc tu avais un paysage magnifique quand il y avait la lune qui brillait, tu étais dans ton eau chaude dans la piscine avec cette vue sur la montagne. C'était
un bon souvenir.
Ah oui,
ça c'était gardé un bon souvenir
Et je fais ça une saison.
Voilà.
D'hiver.
Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Après, je me suis dit, il fallait que j'apprenne le français.
Voilà.
Parce qu'en hôtellerie, il faut parler français.
Voilà.
Donc, je dis à ma mère que je voulais partir à Paris, à l'Alliance française, pour apprendre le français.
Voilà. Alors, on va arrêter ici, oui. Si tu le veux bien.
Oui.
Et puis, nous reprendrons la suite pour ton épisode français,
voilà.
qui dure toujours. En tout cas, Michaela, je te remercie. C'était sympa. Tu m'as appris des tas de choses sur ta vie. Et puis, je pense que tu vas laisser un bon souvenir à ceux qui t'écouteront. Voilà, alors on va arrêter.